Merci d'écouter RFI, minuit à Paris, 23h, temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
C'est devenu un rituel pour des centaines d'Israéliens à Tel Aviv. Ce samedi, une foule s'est de nouveau réunie pour suivre sur écran géant la libération par le Hamas de 3 otages. En échange, Israël a relâché 182 Palestiniens et un Égyptien. Le nouveau chef de la diplomatie américaine part mettre la pression sur le Panama. Premier déplacement à l'étranger pour Marco Rubio. Et la destination n'est pas choisie au hasard, puisque ces dernières semaines, Donald Trump a répété vouloir remettre la main sur le canal du Panama pour enrayer l'influence chinoise. Le président américain qui confirme ce samedi la mise en place de droits de douane à l'encontre du Mexique, du Canada et de la Chine. Et puis en France, François Bayrou ne veut plus voir traîner le dossier du budget. Le Premier ministre annonce ce samedi qu'il déclenchera l'article 49.3 de la Constitution pour tenter de faire adopter le texte en s'exposant à un risque de censure des oppositions. Un bouillonnement de joie dans les rues de Khan Younes. La ville du sud de Gaza a accueilli ce samedi l'un des convois transportant des détenus palestiniens libérés par Israël. Au total, 182 ont été relâchés ce samedi, plus un Égyptien. En échange, le Hamas avait délivré un peu plus tôt 3 otages capturés, eux, le 7 octobre 2023. Le franco-israélien Ofer Calderon, l'israélien Yarden Bibas et l'américano-israélien Kis Zigal ont été remis dans le calme à la Croix-Rouge, puis aux autorités israéliennes. Une nouvelle fois à Tel Aviv, une foule s'était regroupée pour suivre l'événement. Muriel Paradon.
Sur l'écran géant de la place des otages à Tel Aviv, les premières images d'Ofer Calderon, entouré par des combattants du Hamas, le visage fermé, mais apparemment en bonne santé. Une heure plus tard, il est libre, de retour sur le sol israélien. Le poing levé, il affiche un large sourire. Cri de joie sur la place des otages, Michael est au milieu de la foule.
Je voulais partager l'émotion intense que tous ces gens autour de nous ressentent avec la libération de Calderon. Je pense que cette horreur ne mérite pas les klaxons, les cris de joie, etc. qu'on voit, parce qu'on a trop tendance à oublier l'horreur qui est derrière tout ça. Mais c'est vrai qu'en contraste, la libération d'un otage, de plusieurs otages, rend tout le monde heureux.
Ofer Calderon et un autre otage, Kis Zigal, retrouvent leurs proches qui ont été enlevés en même temps qu'eux, puis libérés lors d'une première trêve. Ce n'est pas le cas de Yarden Bibas qui sort de Gaza sans sa femme et ses 2 enfants. Son histoire bouleverse tout le monde, comme Galit.
Pour lui, c'est terrible de sortir, de revenir à la vie, mais d'être amputé, de ne pas savoir où est sa femme, où sont ses enfants et quel est leur avenir. Est-ce qu'ils sont en vie ? C'est terrible, c'est une demi-vie.
Les enfants Bibas et leur mère ont été donnés pour morts par le Hamas, tués par un bombardement de l'armée israélienne. Israël n'a jamais confirmé et beaucoup ici veulent croire qu'ils reviendront un jour. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Et c'est donc une nouvelle étape de cette première phase de la trêve entrée en vigueur le 19 janvier qui s'est déroulée avec succès ce samedi. Dans le même temps, l'État hébreu a confirmé que ses émissaires allaient reprendre les négociations indirectes avec le Hamas à Washington dès lundi à propos de la deuxième phase de cet accord. Celle-ci prévoit la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre. L'un des autres grands dossiers diplomatiques de l'administration Trump concerne cette fois le canal de Panama. C'est dans ce pays que va atterrir ce samedi, Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, pour son tout premier déplacement à l'étranger. Cela marque pour lui le début d'une tournée dans 5 pays d'Amérique centrale. Le président américain avait en effet répété plusieurs fois ces dernières semaines qu'il voulait remettre la main sur le canal, notamment pour contrer l'influence chinoise. Hernando Franco Munoz est le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Panama. Selon lui, il y a peu de risques que Donald Trump emploie la manière forte.
J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas d'une menace militaire en tant que telle, mais qu'il aime jouer les durs et qu'il est menaçant. Il me semble qu'il s'agit plus d'une négociation qu'autre chose. Il est très probable qu'il demande quelque chose en ce qui concerne les ports. Les ports appartiennent à une entreprise privée chinoise et non au gouvernement chinois. Il n'y a pas de base militaire chinoise ni de militaire chinois ici. Il n'y a aucune raison de dire que les Chinois contrôlent le canal. Nous savons que c'est vraiment absurde. Nous avons un contrat avec les Chinois qui est en vigueur avec une société chinoise. Et si le Panama rompt ce contrat ou bien retire la concession qui a été accordée de manière légale, nous allons devoir recourir à un arbitrage qui coûtera certainement très très cher au Panama. Dans les cercles politiques, on parle aussi de la possibilité de demander une base militaire dans la région d'Arienque, ce qui est une préoccupation liée à la question du transit des sans-papiers qui passe par là, et très probablement que Rubio veut que le Panama accueille des personnes qui ne sont pas des ressortissants panaméens, mais qui ne peuvent pas être accueillis dans leur propre pays.
Hernando Franco Muñoz se joint par Manuel Terradillos. Après le Panama, Marco Rubio se rendra au Salvador, au Guatemala, au Costa Rica et en République dominicaine. Donald Trump, lui, a mis 24 heures à confirmer. Le président américain impose depuis ce samedi 25% de droits de douane au Mexique. Même chose pour le Canada, à l'exception des hydrocarbures touchés, eux, à hauteur de 10%. Les produits chinois seront, eux, taxés de 10% supplémentaires. La Maison-Blanche dit notamment vouloir contraindre les trois pays à mieux lutter contre le trafic de fentanyl, une drogue surpuissante qui fait des ravages aux États-Unis. Et puis, c'est une baleine qui a effrayé toute la Silicon Valley. Ce cétacé, c'est le symbole de l'application d'intelligence artificielle chinoise DeepSeek, un robot conversationnel extrêmement puissant et développé pour un montant bien inférieur à ses concurrentes comme ChatGPT, mais qui pose une question quant à la protection des données personnelles des utilisateurs. Nicolas Feldman.
L'inquiétude de ces pays porte d'abord sur les données des utilisateurs collectées par DeepSeek. Âge, email, profil, historique des requêtes. Les régulateurs redoutent que toutes ces données, stockées en partie en Chine, puissent ensuite être partagées avec les autorités de Pékin. L'autre crainte, elle concerne la protection même de ces données. Cette semaine, une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité a signalé une importante fuite. Des milliers de données d'utilisateurs de DeepSeek ont ainsi été accessibles en ligne avant que la start-up chinoise ne règle le problème. De la Corée du Sud à la France, en passant par l'Irlande, plusieurs régulateurs chargés de la protection des données personnelles demandent à l'entreprise chinoise de clarifier ses pratiques. En France, la CNIL, responsable de ces questions, dit mener une analyse de l'IA générative de DeepSeek et annonce vouloir interroger la start-up. L'Italie, elle, n'a pas attendu. Après avoir reçu des réponses jugées totalement insuffisantes, une enquête a été lancée. Rome interdit désormais à DeepSeek de traiter les données des utilisateurs italiens.
Nicolas Feldman, un outil constitutionnel décrié, dégainé pour la première fois par François Bayrou. Le Premier ministre français vient d'annoncer ce samedi soir qu'il utilisera l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour tenter de faire adopter sans vote les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget, dit François Bayrou, qui engage donc la responsabilité de son gouvernement, risquant la censure. Le Premier ministre espère une adoption des budgets d'ici 10 jours. En Serbie, le Premier ministre Milos Vucevic, lui, avait démissionné mardi. Mais cela, en fait, n'a pas du tout suffi à apaiser la colère de milliers de manifestants réunis ce samedi à Novi Sad pour dénoncer la corruption des autorités serbes. C'est dans cette ville, la deuxième plus grande de Serbie, que l'auvent de la gare, pourtant neuf, s'était effondré, provoquant la mort de 15 personnes en novembre. Un drame qui avait été le point de départ de cette vague de contestation. En Croatie voisine, là aussi, un mouvement populaire s'organise, mais en ne faisant rien. Depuis vendredi, les Croates sont invités à ne rien aller acheter dans les supermarchés, les commerces ou même sur Internet. Une opération qui avait déjà été très suivie la semaine d'avant. Le but, c'est en fait de protester contre l'inflation. Elle a atteint près de 30% dans l'alimentaire depuis 2022 et la mobilisation commence à porter ses fruits, selon Eugene Kelemen, porte-parole d'une association de consommateurs croates appelée Allo, Inspectore et l'un des organisateurs de ce boycott.
C'est la première fois qu'un tel mouvement de boycott était organisé en Croatie. Et c'est vraiment un succès, car cela montre que les gens ont un pouvoir face au gouvernement et face à la grande distribution. Suite à la première journée de boycott, la semaine dernière, certains prix ont déjà baissé. Une chaîne de supermarchés a annoncé qu'elle allait baisser les prix de 1000 produits. On verra dans quelques jours le résultat de la suite du boycott, mais les chiffres officiels qu'on a reçus montre qu'il y a eu ce vendredi 31% d'achats en moins par rapport à une journée normale. Notre but est qu'il y ait un meilleur pouvoir d'achat par rapport au salaire, que les gens n'aient plus l'angoisse en entrant dans un magasin de savoir s'ils auront assez pour s'acheter à manger. Bref, que les gens puissent mener une vie normale.
Un propos recueilli par Justine Fontaine. Et puis c'est un exploit retentissant pour le MMA français. Nassourdine Imanov s'est imposé par KO contre Israël Adesanya, l'une des légendes chez les poids moyens dans les arts martiaux mixtes, ce samedi soir à Riyad en Arabie Saoudite. Le combattant français a terminé le combat en deux rounds. RFI, minuit 10 à Paris, 23h10 temps universel.